Chapitre 9, le bonheur d'être aimé. Ils allèrent dîner au Parc Royal, promenade élégante qui est à la capitale du roi Christophe, ce qu'est le Bois de Boulogne à Paris, le Cambre à Bruxelles, Hyde Park à Londres, le Tiergarten à Berlin, le Prater à Vienne, le Prado à Madrid, les Cascines à Florence, le Pincio à Rome. Assis au frais, parmi la foule brillante des dîneurs, ils promenaient leurs regards sur les grands chapeaux chargés de plumes et de fleurs, pavillons errants des plaisirs, abris agités des amours, colombiers vers lesquels volaient les désirs. « Ben je crois, » dit Quatrefeuille, « que ce que nous cherchons se trouve ici. M'est arrivé, tout comme un autre, d'être aimé. » « C'est le bonheur, Saint-Sylvain, et aujourd'hui encore, je me demande si ce n'est pas l'unique bonheur des hommes. Eh bien que je porte le poids d'une vessie plus chargée de pierres qu'un tombereau au sortir de la carrière, il y a des jours je suis amoureux comme à 20 ans. « Moi, » répondit Sylvain, « je suis misogyne. Je ne pardonne pas aux femmes d'être du même sexe que Madame de Saint-Sylvain. Elles sont toutes, je le sais, moins sottes, moins méchantes et moins laides, mais c'est trop qu'elles aient quelque chose en commun avec elles. Bon, laissez cela, Saint-Sylvain. Je vous dis que ce que nous cherchons est ici et que nous n'avons que la main à étendre pour l'atteindre. » Et montant un fort bel homme assis seul à une petite table, vous connaissez Jacques de Navicelle ? Il plaît aux femmes, il plaît à toutes les femmes. C'est le bonheur, je ne m'y connais pas. Saint-Sylvain fut d'avis de s'en assurer. Ils invitèrent Jacques de Navicelle à faire table commune, et tout en dînant, causèrent familièrement avec lui. 20 fois, par de longs circuits ou de brusques détours, de front, obliquement, par insinuation ou en toute franchise, ils s'informèrent de son bonheur sans pouvoir rien apprendre de ce compagnon dont la parole élégante et le visage charmant n'exprimaient ni joie ni tristesse. Jacques de Navicelle causait volontiers, se montrait ouvert et naturel. Il faisait même des confidences, mais elles enveloppaient son secret et le rendaient plus impénétrable. Sans doute il était aimé, en était-il heureux, en était-il malheureux? Quand on apporta les fruits, les deux inquisiteurs du roi renonçaient à le savoir. Alors de guerre lasse, ils parlèrent pour ne rien dire, et parlèrent d'eux-mêmes. Saint-Sylvain de sa femme et Quatrefeuille de sa pierre fondamentale, endroit par lequel il ressemblait à Montaigne. On débita des histoires en buvant des liqueurs. L'histoire de Madame Berry, qui s'échappa d'un cabinet particulier déguisé en mitron, une manne sur la tête. L'histoire du général Desbonnaires et de Madame la baronne de Bilderman. L'histoire du ministre Vizir et de Madame Cérès, qui, comme Antoine et Cléopâtre, firent fondre un empire en baisers et plusieurs autres histoires anciennes et nouvelles. Et Jacques de Navicelle conta un conte oriental. Un jeune marchand de Bagdad, dit-il, était un matin dans son lit, se sentit très amoureux et souhaita à grands cris d'être aimé de toutes les femmes. Un djinn qu'il entendit lui apparut et lui dit « Ton souhait est désormais accompli. À compter d'aujourd'hui, tu seras aimé de toutes les femmes. » Aussitôt, le jeune marchand sauta du lit tout joyeux et se promettant des plaisirs inépuisables et variés, descendit dans la rue. À peine y avait-il fait quelques pas qu'une affreuse vieille qui filtrait du vin dans sa cave, éprise à sa vue d'un ardent amour, lui envoya des baisers par le soupirail. Il détourna la tête avec dégoût, mais la vieille le tira par la jambe dans le souterrain où elle le garda 20 ans enfermé. Et Jacques de Navicelle finissait ce conte quand un maître d'hôtel vint l'avertir qu'il était attendu. Il se leva et, l'œil morne et la tête baissée, se dirigea vers la grille du jardin où l'attendait au fond d'un coupé une figure assez rêche. Là, il vient de conter sa propre histoire, dit Saint-Sylvain. Le jeune marchand de Bagdad, c'est lui-même. Quatrefeuille se frappa le front. Ah oui, on m'avait bien dit qu'il était gardé par un dragon, j'avais oublié. Ils rentrèrent tard au palais, sans autre chemise que la leur, et trouvèrent le roi Christophe et Madame de la Poule qui pleuraient à chaudes larmes en écoutant une sonate de Mozart. Au contact du roi, Madame de la Poule, devenue mélancolique, nourrissait des idées sombres et de folles terreurs. Elle se croyait persécutée, victime de machinations abominables. Elle vivait dans la crainte perpétuelle d'être empoisonnée et obligeait ses femmes de chambre à goûter tous les plats de sa table. Elle ressentait l'effroi de mourir et l'attrait du suicide. L'état du roi s'aggravait de celui de cette dame avec laquelle il passait de tristes jours. « Les peintres, disait Christophe V, sont de funestes artisans d'imposture. Ils prêtent une beauté touchante aux femmes qui pleurent et nous montrent des Andromaques, des Artémis, des Madeleines, des Héloïses parées de leurs larmes. J'ai un portrait d'Adrienne le Couvreur dans le rôle de Cornélie, arrosant de ses pleurs les cendres de Pompée. Elle est adorable. Et dès que Madame de la Poule commence à pleurer, sa face se convulse, son nez rougit. Elle l'aide à faire peur. Ce malheureux prince, qui ne vivait que dans l'attente de la chemise, salutaire, vitupéra Quatrefeuille et Saint-Sylvain de leur négligence, de leur incapacité, de leur mauvaise chance, contente peut-être que de ces trois reproches, un du moins serait juste. Vous me laisserez mourir, comme font mes médecins Machelier et Saumon. Mais eux, c'est leur métier. Moi, j'attendais autre chose de vous. Je comptais sur votre intelligence et sur votre dévouement. M'aperçois que j'avais tort. Revenir bredouille, mais vous n'avez pas honte? Votre mission était-elle donc si difficile à remplir? Est-il donc si malaisé de trouver la chemise d'un homme heureux? Si vous n'êtes pas capable de cela, à quoi êtes-vous un bon alors? On n'est bien servi que par soi-même. Cela est vrai des particuliers et plus vrai des rois. Moi, je vais de ce pas chercher la chemise que vous ne savez découvrir. Et jetant son bonnet de nuit et sa robe de chambre, il demanda ses habits. Quatrefeuille et Saint-Sylvain essayèrent de le retenir. « Sire, dans votre état, quelle imprudence !»« Sire, il est minuit sonné !»« Croyez-vous donc, demanda le roi, que les gens heureux se couchent comme des poules? N'y a-t-il plus de lieu de plaisir dans ma capitale? N'y a-t-il plus de restaurant de nuit? Mon préfet de police a fait fermer tous les claques d'or, n'en sont-ils pas moins ouverts? Mais je n'ai pas besoin d'aller dans les cercles. » Je trouvais ce que je cherche dans la rue, sur les bancs. » À peine habillé, Christophe V enjamba Madame de la Poule, qui se tordait à terre dans des convulsions, dégringola les escaliers et traversa le jardin à la course. Quatrefeuille et Saint-Sylvain, consternés, le suivaient de loin en silence. Chapitre 10. Si le bonheur est de ne se plus sentir. Parvenu à la grande route ombragée de vieux ormes qui bordait le parc royal, il aperçut un homme jeune et d'une admirable beauté qui, appuyé contre un arbre, contemplait avec une expression d'allégresse les étoiles qui traçaient dans le ciel pour leurs signes étincelants et mystérieux. La brise agitait sa chevelure bouclée. Un reflet des clartés célestes brillait dans son regard. « J'ai trouvé !» pensa le roi. Il s'approcha de ce jeune homme, riant et si beau, qui tressaillit légèrement à sa vue. « Je regrette, monsieur, dit le prince, de troubler votre rêverie, mais la question que je vais vous faire est pour moi d'un intérêt vital. Ne refusez pas de répondre à un homme qui est peut-être à même de vous obliger et qui ne sera pas ingrat. Monsieur, êtes-vous heureux? Oui, je le suis. Ne manque-t-il rien à votre bonheur? Rien. Oh, sans doute il n'en a pas toujours été ainsi. Oh, j'ai, comme tous les hommes, éprouvé le mal de vivre, et peut-être l'ai-je éprouvé plus douloureusement que la plupart d'entre eux. Il ne me venait ni de ma condition particulière, ni de circonstances fortuites, mais du fond commun à tous les hommes et à tout ce qui respire. J'ai connu un grand malaise. Il est entièrement dissipé. Je goûte un calme parfait, une douce allégresse. Tout en moi est contentement, sérénité, satisfaction profonde. Une joie subtile me pénètre tout entier. Vous me voyez, monsieur, au plus beau moment de ma vie, et puisque la forme me fait vous rencontrer, je vous prends à témoin de mon bonheur. Je suis enfin libre, exempt des craintes et des terreurs qui assaillent les hommes, des ambitions qui les dévorent et des folles espérances qui les trompent. Je suis au-dessus de la fortune. J'échappe aux deux invincibles ennemis des hommes, l'espace et le temps. Je peux braver les destins. Je possède un bonheur absolu et me confonds avec la divinité. Et cet heureux état est mon ouvrage. Il est dû à une résolution que j'ai prise, si sage, si bonne et si belle, si vertueuse, si efficace, qu'à la tenir, on se divinise. Mais je nage dans la joie, je suis magnifiquement ivre. Je prononce avec une entière conscience et dans la plénitude sublime de sa signification ce mot de toutes les ivresses, de toutes les enthousiasmes, de tous les ravissements. Je ne me connais plus. Il tira sa montre. C'est l'heure. Adieu. Un mot encore, monsieur. Vous pouvez me sauver. On est sauvé qu'en prenant pour exemple. Moi, vous devez me quitter ici. Adieu. Et l'inconnu, d'un pas héroïque, d'une allure juvénile, s'élança dans le bois qui bordait la route. Christophe, sans vouloir rien entendre, le poursuivit. Au moment de pénétrer dans le taillis, il entendit un coup de feu, s'avança, écarta les branches et vit le jeune homme heureux couché dans l'herbe, la tempe percée d'une balle et tenant encore son revolver dans la main droite. À cette vue, le roi tomba évanoui. Quatrefeuille et Saint-Sylvain, accourus à lui, l'aidèrent à reprendre ses sens et le portèrent au palais. Christophe s'enquit de ce jeune homme qui avait trouvé sous ses yeux un bonheur désespéré. Il apprit que c'était l'héritier d'une famille noble et riche, aussi intelligent que beau et constamment favorisé par le sort. Chapitre 11. Sigismond Dux. Le lendemain, Quatrefeuille des Saint-Sylvain, à la recherche de la chemise médicinale, descendant à pied la rue de la Constitution, rencontrèrent la comtesse de Cécile qui sortait d'un magasin de musique. Ils la reconduisirent à sa voiture. « Monsieur de Quatrefeuille, on ne vous a pas vu hier à la clinique du professeur Quilleboeuf. N'y voulons plus, monsieur de Saint-Sylvain. Oh, vous avez eu tort de n'y pas venir, c'était très intéressant. » Le professeur Quilleboeuf avait invité tout le monde élégant, à la fois une foule et une élite, à son opération de 5 heures, une charmante ovariotomie. Il y avait des fleurs, des toilettes, de la musique. On a servi des glaces. Le professeur s'est montré d'une élégance, d'une grâce merveilleuse. Il a fait prendre des clichés pour le cinématographe. Quatrefeuille ne fut pas trop surpris de cette description. Il savait que le professeur Quilleboeuf opérait dans le luxe et les plaisirs. Il serait allé lui demander sa chemise s'il n'avait vu quelque chose auparavant, l'illustre chirurgien inconsolable de n'avoir pas opéré les deux plus grandes célébrités du jour. L'empereur d'Allemagne, qui venait de se faire enlever un kyste par le professeur Hilmacher, et la naine des Folies Bergères, qui, ayant avalé un sang de clou, ne voulait pas qu'on lui ouvrît l'estomac et prenait de l'huile de ricin. Saint-Sylvain, s'arrêtant à la devanture du magasin de musique, contempla le buste de Sigismond Dux et poussa un cri. Mais le voilà, celui que nous cherchons, le voilà, l'homme heureux. Le buste, très ressemblant, offrait des traits réguliers et nobles, une de ces figures harmonieuses et pleines qui ont l'air d'un globe du monde. Bien que très chauve et déjà vieux, le grand compositeur y paraissait aussi charmant que magnifique. Son crâne s'arrondissait comme un dôme d'église, mais son nez, un peu gros, se plantait au-dessous avec une robustesse amoureuse et profane. Une barbe coupée au ciseau ne dissimulait pas des lèvres charnues, une bouche aphrodisiaque et bachique. Et c'était bien l'image de ce génie qui compose les oratorios les plus pieux, la musique de théâtre, la plus passionnée, la plus sensuelle. « Mais comment, poursuivit Saint-Sylvain, n'avons-nous pas pensé à Sigismond Dux, qui jouit si pleinement de son immense gloire, habile à en saisir tous les avantages et tout juste assez fou pour s'épargner la contrainte et l'ennui d'une haute position, le plus spiritualiste, le plus sensuel des génies, heureux comme un dieu, tranquille comme une bête, joignant dans ses innombrables amours à la délicatesse la plus exquise, le cynisme le plus brutal. » « Ce, dit Quatrefeuille, ah oui, un riche tempérament. Sa chemise ne pourra que faire du bien à sa majesté, ben allons l'acquérir. » Ils furent introduits dans un hall vaste et sonore comme une salle de café-concert. Un orgue élevé de 3 marches couvrait un pan de la muraille de son buffet aux tuyaux sans nombre. Coiffé d'un bonnet de doge, vêtu d'une dalmatique de brocart, Sigismond Dux improvisait des mélodies et sous ses doigts naissaient des sons qui troublaient les âmes et faisaient fondre les cœurs. Sur les 3 marches tendues de pourpre, une troupe de femmes couchées, magnifiques ou charmantes, longues, minces et serpentines ou rondes, drues d'une splendeur massive, toutes également belles de désir et d'amour, ardentes et pâmées, se tordaient à ses pieds. Dans tout le hall, une foule frémissante de jeunes américaines, de financiers israélites, de diplomates, de danseuses, de cantatrices, de prêtres catholiques, anglicans et bouddhistes, de princes noirs, d'accordeurs de piano, de reporters, de poètes lyriques, d'impresarii, de photographes, d'hommes habillés en femmes et de femmes habillées en hommes, pressés, confondus, amalgamés, ne formaient qu'une seule masse odorante, au-dessus de laquelle, grimpés aux colonnes à cheval sur les candélabres, pendus aux lustres, s'agitaient de jeunes et agiles dévotions. Ce peuple immense nageait dans l'ivresse, c'était ce qu'on appelait une matinée intime. L'orgue se tut. Une nuée de femmes enveloppa le maître qui, par moments, en sortait à demi comme un astre lumineux pour s'y replonger aussitôt. Il était doux, câlin, lascif, glissant. Aimable, pas plus fat qu'il ne fallait, grand comme le monde et mignon comme un amour, en souriant, il montrait dans sa barbe grise des dents de jeune enfant, et disait à toutes des choses faciles et jolies qui les enchantaient et qu'on ne pouvait retenir tant elles étaient ténues, de sorte que le charme en demeurait tout entier embelli de mystère. Il était pareillement affable et bon avec les hommes, et voyant Saint-Sylvain, il l'embrassa 3 fois et lui dit qu'il l'aimait chèrement. Le secrétaire du roi ne perdit pas de temps. Il lui demanda deux mots d'entretien confidentiel de la part du roi, et lui ayant expliqué sommairement de quelle importante mission il était chargé, il lui dit « Maître, donnez-moi votre cheveu. » Il s'arrêta, voyant les traits de Sigismond Dux subitement décomposés. Un orgue de barbarie s'était mis à moudre dans la rue la polka des Jonquilles. Et dès les premières mesures, le grand homme avait pâli. Cette polka des Jonquilles, le caprice de la saison, était d'un pauvre violon de bastringue nommé Bouquin, obscur et misérable. Et le maître, couronné de 40 ans de gloire et d'amour, ne pouvait souffrir qu'un peu de louange, s'égara sur Bouquin. Il en ressentait comme une insupportable offense. Dieu lui-même est jaloux et s'afflige de l'ingratitude des hommes. Sigismond Dux ne pouvait entendre la polka des Jonquilles sans tomber malade. Il quitta brusquement Saint-Sylvain, la foule de ses adorateurs, le magnifique troupeau de ses femmes pâmées, et courut dans son cabinet de toilette vomir une cuvette de bile. « Ben, il est à plaindre, » soupira Saint-Sylvain. Et, tirant quatre feuilles par ses masques, il franchit le seuil du musicien malheureux. Chapitre 12. Si le vice est une vertu. Durant 14 mois, du matin au soir et du soir au matin, ils fouillèrent la ville et les environs, observant, examinant, interrogeant en vain. Le roi, dont les forces diminuaient de jour en jour, et qui se faisait maintenant une idée de la difficulté d'une semblable recherche, donna l'ordre à son ministre de l'Intérieur d'instituer une commission extraordinaire, chargée, sous la direction de messieurs Quatrefeuille, Chaud-de-Zègue, Saint-Sylvain et Froidefond, de procéder avec plein pouvoir à une enquête secrète sur les personnes heureuses du royaume. Le préfet de police, déférant à l'invitation du ministre, mit ses plus habiles agents au service des commissaires, et bientôt, dans la capitale, les heureux furent recherchés avec autant de zèle et d'ardeur que dans les autres pays les malfaiteurs et les anarchistes. Un citoyen passait-il pour fortuné, aussitôt il était dénoncé, épié, filé. Deux agents de la préfecture traînaient à toute heure, de long en large, leurs gros souliers ferrés sous les fenêtres des gens suspects de bonheur. Un homme du monde louait-il une loge à l'opéra? Il était mis aussitôt en surveillance. Un propriétaire d'écurie, dont le cheval gagnait une course, était gardé à vue. Dans toutes les maisons de rendez-vous, un employé de la préfecture, installé au bureau, prenait note des entrées. Et sur l'observation de monsieur le préfet de police, que la vertu rend heureux, les personnes bienfaisantes, les fondateurs d'œuvres charitables, les généreux donateurs, les épouses délaissées et fidèles, les citoyens signalés pour des actes de dévouement, les héros, les martyrs étaient également dénoncés et soumis à de minutieuses enquêtes. Cette surveillance pesait sur toute la ville, mais on en ignorait absolument la raison. Quatrefeuille et Saint-Sylvain n'avaient confié à personne qu'ils cherchaient une chemise fortunée, de peur, comme nous l'avons dit, que des gens ambitieux ou cupides, feignant de jouir d'une félicité parfaite, ne livrassent au roi comme heureux un vêtement de dessous tout imprégné de misère, de chagrin et de sourcils. Les mesures extraordinaires de la police semaient l'inquiétude dans les hautes classes et l'on signalait une certaine fermentation dans la ville. Plusieurs dames, très estimées, se trouvèrent compromises et des scandales éclatèrent. La commission se réunissait tous les matins à la bibliothèque royale, sous la présidence de M. Quatrefeuille, avec l'assistance de messieurs Trou et Boncassis, conseillers d'État en service extraordinaire. Elle examinait à chaque séance 1500 dossiers en moyenne. Après une session de 4 mois, elle n'avait pas encore surpris l'indice d'un homme heureux. Comme le président Quatrefeuille s'en lamentait, « Hélas !» s'écria M. Boncassis, « les vices font souffrir et tous les hommes ont des vices. »« Bon, je n'en ai pas, moi, » soupira M. Chauzec, « j'en suis au désespoir. La vie sans vice n'est que langueur, abattement et tristesse. La vie est l'unique distraction qu'on puisse goûter en ce monde. » Le vice est le coloris de l'existence, le sel de l'âme, l'étincelle de l'esprit, que dis-je ? Le vice est la seule originalité, la seule puissance créatrice de l'homme. Il est l'essai d'une organisation de la nature contre la nature, de l'intronisation du règne humain au-dessus du règne animal, d'une création humaine contre la création anonyme, d'un monde conscient dans l'inconscience universelle. Le vice est le seul bien propre à l'homme, son réel patrimoine, sa vraie vertu au sens propre du mot, puisque vertu est le fait de l'homme, virtus, vir. J'ai essayé de m'en donner, je n'ai pas pu. Il y faut du génie, il y faut un beau naturel. Un vice affecté n'est pas un vice. Et à ça, demanda Quatrefeuille, qu'appelez-vous vice ? J'appelle vice une disposition habituelle à ce que le nombre considère comme anormal et mauvais, c'est-à-dire la morale individuelle, la force individuelle, la vertu individuelle, la beauté, la puissance, le génie. À la bonne heure, dit le conseiller Trou, il ne s'agit que de s'entendre. Mais Saint-Sylvain combattit vivement l'opinion du bibliothécaire. « Ne parlez donc pas de vice, lui dit-il, puisque vous n'en avez pas. Vous ne savez pas ce que c'est. J'en ai, moi. J'en ai plusieurs, et je vous assure que j'en tire moins de satisfaction que de désagrément. Il n'y a rien de pénible comme un vice. On se tourmente, on s'échauffe, on s'épuise à le satisfaire, et dès qu'il est satisfait, on éprouve un sentiment de dégoût. « Vous ne parleriez pas ainsi, monsieur, » répliqua Chaudseg, « si vous aviez de bons vices, des vices nobles, fiers, impérieux, très hauts, vraiment vertueux. Mais vous n'avez que de petits vices, peureux, arrogants et ridicules. Vous n'êtes pas, monsieur, un grand contempteur des dieux. » Saint-Sylvain se sentit d'abord piqué de ce propos, mais le bibliothécaire lui représenta qu'il n'y avait là nulle offense. Saint-Sylvain en convint de bonne grâce et fit avec calme et fermeté cette réflexion. Hélas, oh, la vertu comme le vice, la vice comme la vertu, est effort, contrainte, lutte, peine, travail et épuisement. Voilà pourquoi nous sommes tous malheureux. Mais le président Quatrefeuille se plaignit que sa tête allait éclater. « Messieurs, dit-il, ne raisonnons donc point, nous ne sommes pas faits pour cela. » Et il leva la séance. Il en fit de cette commission du bonheur comme de toutes les commissions parlementaires et extra-parlementaires réunies dans tous les temps et dans tous les pays. Elle n'aboutit à rien. Et après avoir siégé 5 ans, se sépara sans avoir apporté aucun résultat utile. Mais le roi n'allait pas mieux. La neurasthénie, semblable au vieillard des mers, prenait pour le terrassé des formes diversement terribles. Il se plaignait de sentir tous ses organes, devenus erratiques, se mouvoir sans cesse dans son corps et se transporter à des places inaccoutumées, le rein au gosier, le cœur au mollet, les intestins dans le nez, le foie dans la gorge, le cerveau dans le ventre. « Vous n'imaginez pas, » ajoutait-il, « combien ces sensations sont pénibles et jettent de confusion dans les idées. »« Sire, je le conçois d'autant mieux, » repartit Quatrefeuille, que dans ma jeunesse, il m'arrivait souvent que le ventre me remontait jusque dans le cerveau, et cela donnait à mes idées la tournure qu'on peut se figurer. Mes études de mathématiques en ont bien souffert. Plus Christophe ressentait du mal, plus il réclamait ardemment la chemise qui lui était prescrite. Chapitre 13. Monsieur le curé Miton. Je reviens à croire, dit Saint-Sylvain à Quatrefeuille, que si nous n'avons pas trouvé, c'est que nous avons mal cherché. Décidément, je crois à la vertu et je crois au bonheur. Ils sont inséparables. Ils sont rares. Ils se cachent. Nous les découvrirons sous d'humbles toits, au fond des campagnes. Si vous m'en croyez, nous les cherchons de préférence dans cette région montueuse et rude qui est notre Savoie et notre Tyrol. 15 jours plus tard, ils avaient parcouru 60 villages de la montagne sans rencontrer un homme heureux. Toutes les misères qui désolent les villes, ils les retrouvaient dans ces hameaux où la rudesse et l'ignorance des hommes les rendaient encore plus durs. La faim et l'amour, ces deux fléaux de la nature, y frappaient les malheureux humains à coups plus forts et plus pressés. Ils virent des maîtres avares, des maris jaloux, des femmes menteuses, des servantes empoisonneuses, des valets assassins, des pères incestueux, des enfants qui renversaient la huche sur la tête de l'aïeul, sommeillant à l'angle du foyer. Ces paysans ne trouvaient de plaisir que dans l'ivresse. Leur joie même était brutale, leur jeu cruel. Leur fête se terminait en rixes sanglantes. À mesure qu'ils les observaient davantage, Quatrefeuille et Saint-Sylvain reconnaissaient que les mœurs de ces hommes ne pouvaient être ni meilleures ni plus pures, que la terre avare les rendait avares, qu'une dure vie les endurcissait, aux mots d'autrui comme aux leurs, et que s'ils étaient jaloux, cupides, faux, menteurs, sans cesse occupés à se tromper les uns les autres, c'était l'effet naturel de leur indigence et de leur misère. Mais comment, se demandait Saint-Sylvain, ai-je pu croire un seul moment que le bonheur habite sous le chaume? Ce ne peut être que l'effet de l'instruction classique. Virgile, dans son poème administratif intitulé « Les Géorgiques », dit que les agriculteurs seraient heureux s'ils connaissaient leur bonheur. Il avoue donc qu'ils n'en ont point connaissance. Mais en fait, oui, il écrivait par l'ordre d'Auguste, excellent général de l'Empire, qui avait peur que Rome manquât de pain et cherchait à repeupler les campagnes. Virgile savait, comme tout le monde, que la vie du paysan est pénible. Hésiode en a fait un tableau affreux. Ben, il y a un fait certain, dit Quatrefeuille, c'est que dans toutes les contrées, les garçons et les filles de la campagne n'ont qu'une envie, se louer à la ville. Sur le littoral, les filles rêvent d'entrer dans des usines de sardines. Dans les pays de charbon, les jeunes paysans ne songent qu'à descendre dans la mine. Un homme, dans ces montagnes, montrait au milieu des fronts soucieux et des visages renfrognés son sourire ingénu. Il ne savait ni travailler la terre, ni conduire les animaux. Il ne savait rien de ce que savent les autres hommes. Il tenait des propos dénués de sens et il chantait toute la journée un petit air qui n'achevait jamais. Tout le ravissait. Il était partout aux anges. Son habit était fait de morceaux de toutes les couleurs, bizarrement assemblés. Les enfants le suivaient en se moquant. Mais comme il passait pour porter bonheur, on ne lui faisait pas de mal, et on lui donnait le peu dont il avait besoin. C'était Hurtepoix, l'innocent. Il mangeait aux portes avec les petits chiens et couchait dans les granges. Observant qu'il était heureux et soupçonnant que ce n'était pas sans des raisons profondes que les gens de la contrée le tenaient pour un porte-bonheur, Saint-Sylvain, après de longues réflexions, le chercha pour lui tirer sa chemise. Il le trouva prosterné, tout en pleurs, sous le porche de l'église. Hurtepoix venait d'apprendre la mort de Jésus-Christ mis en croix pour le salut des hommes. Descendu dans un village dont le maire était cabaretier, les deux officiers du roi le firent boire avec eux et s'enquirent si d'aventure ils ne connaissaient pas un homme heureux. « Messieurs, leur répondit-il, allez dans ce village dont vous voyez à l'autre versant de la vallée les maisons blanches pendues au flanc de la montagne et présentez-vous au curé Miton. Il vous recevra très bien et vous serez en présence d'un homme heureux et qui mérite sa félicité. Vous aurez fait la route en 2 heures. » Le maire offrit de leur louer des chevaux. Ils partirent après leur déjeuner. Un jeune homme, qui suivait le même chemin, monté sur un meilleur cheval, les rejoignit au premier lacet. Il avait la mine ouverte, un air de joie et de santé. Ils lièrent conversation avec lui. Ayant appris d'eux qu'il se rendait chez le curé Miton, « Oh, faites-lui bien mes compliments. Moi, je vais un petit peu plus haut à la Ciseraie, où j'habite, au milieu de beaux pâturages. J'ai hâte d'y arriver. » Il leur conta qu'il avait épousé la plus aimable et la meilleure des femmes, qu'elle lui avait donné 2 enfants beaux comme le jour, un garçon et une fille. « Je viens du chef-lieu, ajouta-t-il sur un ton d'allégresse. Et je rapporte de belles robes en pièces avec des patrons et des gravures de mode où l'on voit l'effet du costume. Alice, oh oui, c'est le nom de ma femme, ne se doute pas du cadeau que je lui destine. Je lui remettrai les paquets tout enveloppés et j'aurai le plaisir de voir ses jolis doigts impatients s'agacer à défaire les ficelles. Elle sera bien contente. Ses yeux ravis se lèveront sur moi, pleins d'une fraîche lumière, et elle m'embrassera. Nous sommes heureux, mon Alice et moi. Depuis 4 ans que nous sommes mariés, nous nous aimons chaque jour davantage. Nous avons les plus grasses prairies de la contrée, et nos domestiques sont heureux aussi. Ils sont braves à faucher et à danser. Il faut venir chez nous un dimanche, messieurs. Vous boirez de notre petit vin blanc, et vous regarderez danser les plus gracieuses filles et les plus vigoureux gars du pays, qui vous enlèvent leur danseuse et la font voler comme une plume. Notre maison est à 1/2 heure d'ici. On tourne à droite entre ces 2 rochers que vous voyez à 50 pas devant vous et qu'on appelle les pieds du chamois. On passe un pont de bois jeté sur un torrent et on traverse ce petit bois de pins qui vous garantit du vent du nord. Dans 1/2 heure, je retrouverai ma petite famille et nous serons tous 4 bien contents. « Il faut lui demander sa chemise, » dit tout bas Quatrefeuille à Saint-Sylvain. « Je suppose qu'elle vaut bien celle du curé Miton. »« Non, je le suppose aussi, » répondit Saint-Sylvain. Au moment où ils échangeaient ces propos, un cavalier déboucha entre les pieds du chamois et s'arrêta sombre et muet devant les voyageurs. Reconnaissant un de ses métayers, « Qu'est-ce, Ulrich ?» demanda le jeune maître. Ulrich ne répondit pas. « Un malheur, parle !»« Monsieur, votre épouse, impatiente de vous revoir, a voulu aller au-devant de vous. Le pont de bois s'est rompu et elle s'est noyée dans le torrent avec ses 2 enfants. » Laissant le jeune montagnard fou de douleur, ils se rendirent chez M. Miton et furent reçus au presbytère dans une chambre qui servait au curé de parloir et de bibliothèque. Il y avait là, sur des tablettes de sapin, 1 millier de volumes et contre les murs blanchis à la chaux, des gravures anciennes d'après les paysages de Claude Lorrain et du Poussin. Tout y révélait une culture et des habitudes d'esprit qu'on ne rencontre pas d'ordinaire dans un presbytère de village. Le curé Miton, entre deux âges, avait l'air intelligent et bon. À ses deux visiteurs, qui feignaient de vouloir s'établir dans le pays, il vanta le climat, la fertilité, la beauté de la vallée. Il leur offrit du pain blanc, des fruits, du fromage et du lait. Puis il les mena dans son potager, qui était d'une fraîcheur et d'une propreté charmante. Sur le mur qui recevait le soleil, les espaliers allongeaient leurs branches avec une exactitude géométrique. Les quenouilles des arbres fruitiers s'élevaient à égale distance les unes des autres, bien régulières et bien fournies. « Vous ne vous ennuyez jamais, monsieur le curé ?» demanda Quatrefeuille. « Oh, le temps me paraît court entre ma bibliothèque et mon jardin, » répondit le prêtre. « Pour tranquille et paisible qu'elle soit, ma vie n'en est pas moins active et laborieuse. Je célèbre les offices, je visite les malades et les indigents, je confesse mes paroissiens et mes paroissiennes. Les pauvres créatures n'ont pas beaucoup de péchés à dire, puis-je m'en plaindre ? Elles les disent longuement. Il me faut réserver quelque temps pour préparer mes prônes et mes catéchismes. Mes catéchismes, surtout, me donnent de la peine, bien que je les fasse depuis plus de 20 ans. Oh, c'est si grave de parler aux enfants. Ils croient tout ce qu'on leur dit. J'ai aussi mes heures de distraction, je fais des promenades. Ce sont toujours les mêmes, et elles sont infiniment variées. Un paysage change avec les saisons, avec les jours, avec les heures, avec les minutes. Il est toujours divers, toujours nouveau. Je passe agréablement les longues soirées de la mauvaise saison avec de vieux amis, le pharmacien, le percepteur et le juge de paix. Nous faisons de la musique. Maureen m'a servante Excel à cuire les châtaignes. Nous en régalons. Qu'y a-t-il de meilleur au goût que les châtaignes avec un verre de vin blanc ? Monsieur, dit Quatrefeuille à ce bon curé, nous sommes au service du roi. Nous venons vous demander de nous faire une déclaration qui sera pour le pays et pour le monde entier d'une grande conséquence. Il y va de la santé, peut-être de la vie du monarque. C'est pourquoi nous vous prions d'excuser notre question, si étrange et si indiscrète qu'elle vous paraisse, et d'y répondre sans réserve ni réticence aucune. Monsieur le curé, êtes-vous heureux ? Monsieur Miton prit la main de Quatrefeuille, la pressa et dit d'une voix à peine perceptible : Mon existence est une torture. Je vis dans un perpétuel mensonge. Je ne crois pas. » Et deux larmes roulèrent de ses yeux. Chapitre 14 et dernier. Après avoir toute l'année vainement parcouru le royaume, Quatrefeuille et Saint-Sylvain se rendirent au château de Fomblande, où le roi s'était fait transporter pour jouir de la fraîcheur des bois. Ils le trouvèrent dans un état de prostration dont s'alarmait la cour. Les invités ne logeaient pas dans ce château de Fomblande, qui n'était guère qu'un pavillon de chasse. Le secrétaire des commandements et le premier écuyer avaient pris logis au village, et chaque jour ils se rendaient sous bois auprès du souverain. Durant le trajet, ils rencontraient souvent un petit homme qui logeait dans un grand plateau platane creux de la fleuret. Il se nommait Mousque. Il n'était pas beau, avec sa face camuse, ses pommettes saillantes et son large nez aux narines toutes rondes. Mais ses dents carrées, que ses lèvres rouges découvraient dans un rire fréquent, donnaient de l'éclat et de l'agrément à sa figure sauvage. Comment s'était-il emparé du grand platane creux ? Personne ne le savait. Mais il s'y était fait une chambre bien propre et munie de tout ce qui lui était nécessaire. À vrai dire, il lui fallait peu. Il vivait de la forêt, de l'étang, et vivait très bien. On lui pardonnait l'irrégularité de sa condition parce qu'il rendait des services et savait plaire. Quand les dames du château se promenaient en voiture dans la forêt, Il leur offrait, dans des corbeilles d'osier qu'il avait lui-même tressées, des rayons de miel, de fraises, les bois ou le fruit amer et sucré du cerisier des oiseaux. Il était toujours prêt à donner un coup d'épaule aux charrois embourbés et aidait à rentrer les foins quand le temps menaçait. Sans se fatiguer, il en faisait plus qu'un autre. Sa force et son agilité étaient extraordinaires. Il brisait de ses mains la mâchoire d'un loup, attrapait un lièvre à la course et grimpait aux arbres comme un chat. Il faisait, pour amuser les enfants, des flûtes de roseaux, des petits moulins à vent et des fontaines d'hierron. Quatre Feuilles et Saint-Sylvain entendaient souvent dire dans le village « heureux comme bousque ». Ce proverbe frappa leur esprit, et un jour, passant sous le grand plateau creux, ils virent Mousque qui jouait avec un jeune mops et paraissait aussi content que le chien. Ils s'avisèrent de lui demander s'il était heureux. Mousque ne put répondre, faute d'avoir réfléchi sur le bonheur. Ils lui apprirent en gros et simplement ce que c'était. Et après y avoir songé un moment, il répondit qu'il l'avait. À cette réponse, Saint-Sylvain s'écria impétueusement. Mousque, oh, nous te procurons tout ce que tu peux désirer, de l'or, un palais, des sabots neufs, tout ce que tu voudras. Donne-nous ta chemise. Sa bonne figure exprima non le regret et la déception qu'il était bien incapable d'éprouver, mais une grande surprise. Il fit signe qu'il ne pouvait donner ce qu'on lui demandait. Il n'avait pas de chemise.